C'est le dernier, c'est un nouveau bed, Pascal Sévin.
Ah ouais, ça part.
Oh yes!
On s'en va affronter les syndicats. Non, on fait des farces. On va plus prendre des nouvelles dans les prochaines minutes.
On va prendre des nouvelles avec Éric Gingras, qui est président de la Centrale syndicale du Québec, la CSQ. Il est au bout du fil. Monsieur Gingras, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous deux.
Ça va très bien. Vous avez aimé notre petite blague, je pense, je l'entends dans votre ton de voix.
Prêt à vous battre?
Oh oui, c'est ça. Non, non, non. Pas du tout. Je suis là pour discuter avec vous, c'est ça, hein?
Ah, exactement.
Oui. Mais c'est vrai que souvent, on associe syndicats à grands débats publics, à fermeture de discussions et de négociations. Vous avez besoin d'avoir la couenne dure en 2026, là?
Ouais, mais en même temps, écoutez, la CSQ, là, puis je pense qu'on l'a démontré dans plein de prises de parole publiques. Notre travail, c'est des fois d'amener des discussions difficiles sur des enjeux pas toujours évidents, avec lesquels des fois on a des désaccords, mais je pense que notre travail, c'est quand même d'expliquer, puis c'est ce que les membres veulent chez nous. Lorsque les membres me donnent des mandats par l'entremise de leurs représentants, ils veulent quand même que je propose des solutions. Simplement dire on est dans tes accords puis on déchire notre chemise, bien à la fin, on n'avance pas. Puis par exemple, si on regarde notamment l'éducation, bien, un des éléments qu'on mentionnait là, en conférence de presse ce matin, parce que c'était notre conférence de presse de la rentrée pour 2026, où on dit, bien, voici des enjeux sur lesquels on veut travailler, c'est notamment une grande réflexion en éducation pour justement résoudre, je pense, tout ce qui se passe en éducation, c'est pas facile, des enjeux de réseau, des enjeux de personnel, etc. Puis on sait qu'on n'aura pas toutes les solutions, puis ça va prendre des patrons, puis ça va prendre le ministère, puis ça va prendre le gouvernement, des chercheurs, des universitaires, mais il va falloir asseoir tout le monde. Fait que je pense que c'est de trouver l'équilibre entre dénoncer, être ferme, mais en même temps proposer des choses, puis c'est peut-être du syndicalisme en 2026 sur lequel on va travailler. Hein?
Comment réagissent vos proches quand vous dites ce que vous faites dans la vie ou un peu inconnu que vous rencontrez? Puis, hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous riez encore, mais j'aime ça, moi, savoir c'est quoi la réponse à cette question-là.
Ouais, écoutez, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été impliqué. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis impliqué syndicalement. Fait que de me retrouver un peu à la présidence de la centrale, ils sont pas vraiment surpris. Bon, c'est certain qu'étant donné, bon, il y a eu tout le front commun à la négociation du secteur public, ça fait un peu de moi, là, une personnalité un peu publique. C'est sûr que je croise des gens dans la rue que je connais pas, puis ces temps-ci, disons, avec un gouvernement qui casse du sucre sur le dos des syndicats, des fois, c'est pas toujours positif ce qu'on me dit, mais en même temps, écoutez, moi, je pense que de mon côté, mon travail, c'est de porter la parole des profs, du personnel de soutien, des professionnels que je représente au collégial, en éducation, puis je pense qu'après ça, eux, ils me le rendent bien, parce que quand je les croise, on représente plus de 225 000 membres, ça fait bien du monde que je suis susceptible de croiser, ben j'ai quand même un bon retour, fait que je garde ce qui est positif autour de moi, c'est ça qui est le plus important.
Je vais vous amener sur un terrain glissant, mais une sortie comme Magali Picard lors de la commission parlementaire sur le nouveau projet de loi où elle parle de guerre sociale, puis elle doit être ramenée à l'ordre au niveau de la politesse, ça doit pas aider votre mouvement syndical?
Ben écoutez, ce que Magali a dit, puis il faut remettre dans le contexte, hein, elle était en congrès avec des militants, donc c'est certain qu'elle portait un message de mécontentement. Puis, veut pas, présentement, là, c'est difficile. Là. On a un gouvernement qui utilise l'espèce d'épouvantail syndical à tous les mots. Écoutez, moi j'écoute le premier ministre, puis vraiment, là, si ça va pas bien au Québec, c'est toute la faute des syndicats présentement. Fait que je pense que c'est ce message-là, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus nuancé. Je pense que la population est pas dupe. Je reviens avec l'exemple de l'éducation. Présentement, l'éducation, c'est pas facile. C'est à la faute des profs. C'est à la faute du personnel de soutien. Est-ce que c'est à la faute des professionnels? Ben, la réponse, c'est non. Et c'est pas la faute plus des syndicats. On a fait des gains, par exemple, puis on nous met souvent au niveau des budgets, on a fait des gains pour améliorer les salaires. Est-ce que quelqu'un pensait que le personnel était trop payé? La réponse, c'est non. D'ailleurs, ils étaient tous derrière notamment le personnel en éducation, puis c'est vrai en santé, puis c'est au collégial lors de la dernière ronde de négo. Mais là, le gouvernement dit, ben là, les budgets sont très élevés en éducation, il faut couper. Et là, il y en a qui nous disent, parce que vous avez choisi d'augmenter vos salaires à la place d'injecter de l'argent en éducation. Ça peut pas se faire comme ça. On peut pas dire, d'un côté, soit que j'augmente ton salaire ou je donne plus de services. Ça, c'est inacceptable. Alors, c'est un mélange des deux, mais en même temps, bien conscient qu'il faut faire des choix politiques. Mais le problème au Québec, c'est qu'on pense sur 2 ans en place de penser sur 10 ou 15 ou 20 ans. En éducation, c'est comme ça qu'on devrait penser,
ouais,
ça. Là.
Non, en effet, je vous rejoins sur deux points là-dessus. D'un, sur les salaires. Là. En effet, là, je pense que tout le monde mérite une augmentation salariale, ne serait-ce qu'à l'inflation. Et les enseignants et les enseignantes à l'heure actuelle travaillent très fort dans des conditions qui se sont dégradées. Je vous rejoins aussi sur la vision long terme. On en parle régulièrement, moi et Pascal, de politiciens qui travaillent trop à la petite semaine. Par contre, je veux vous entendre. Moi, il y a un élément sur lequel je suis en désaccord, c'est le fait que le projet de loi de M. Boulay, qui va amener plus de transparence dans vos états financiers, vous le voyez comme une guerre au contre-pouvoir. Je la comprends pas, celle-là, honnêtement.
C'est pas le bout sur la transparence. Là-dessus, on va être clair, là. On est d'accord. On est allé à la commission parlementaire. On a fait même des propositions parce que il y a certains éléments sur la transparence où ben, le mur à mur marche pas. Si vous représentez 50 ou 40 personnes, c'est pas la même chose que si vous avez une accréditation ou un syndicat qui en représente 2000. Donc, on a amené des propositions où il y a eu une ouverture, on a senti une ouverture de la part du ministre. Mais je le répète, on est d'accord avec la transparence, on est d'accord de donner les états financiers à tous les membres, on est d'accord que ce soit bien ventilé, on est d'accord avec tout ça. Là où on est en désaccord, c'est ce qu'il fait avec les syndicats, mais ce qu'il fait aussi dans d'autres projets de loi qu'il a déposés, que ce soit la loi sur la Constitution du Québec, les médecins, la loi 2, là, il va la modifier, mais il y a quand même des éléments là-dessus. Le projet de loi 7 sur la fusion de certaines agences, où là, il y a des éléments, puis il fait que les syndicats, il dit, ben, il y a des éléments sur lesquels tu ne pourras pas intervenir, sinon, si tu peux intervenir, c'est selon telle façon de faire.
Et ça, ouais, nommez-moi un élément concret, s'il vous plaît, parce que la loi 2, je le comprends, là, puis j'étais contre cette loi-là, là, justement. Là. Mais quel élément concret, justement, où vous perdez du pouvoir dans ce que M. Boulay fait?
Bon, alors, je donne un exemple. Si il dépose un projet de loi sur quelque chose qui nous touche, je vais vous donner l'exemple de l'équité salariale, OK? Là, maintenant, c'est une loi, l'équité salariale, mais avant qu'elle soit une loi, c'était un principe. Tout le monde voulait travailler ça, puis c'est devenu une loi au tournant des années 2000. Puis la CSQ, là, on a milité pour avoir cette loi-là. Ce que le ministre vient faire dans son projet de loi, ce qu'il vient nous dire, c'est ben, si tu veux militer, tu vas aller précisément demander la possibilité à tes membres de le faire. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est normal. Sauf que là, la réalité, c'est que moi, je serais allé voir les membres, puis j'aurais dit, ben, on veut militer pour l'équité. Et la réalité, c'est qu'il y aurait une partie des membres qui aurait dit, ben, moi, je suis d'accord, mais j'y crois pas. Fait qu'une partie de mes cotisations que tu prendras pas pour faire ça. Soit, peut-être les deux tiers allaient dire « Oui, moi, j'y crois. Allons-y, coûte que coûte. » Et là, finalement, on se serait battu parce que c'est ce qui est arrivé. On a obtenu la loi là, sur l'équité salariale. Et tout le monde en a bénéficié. Tous les profs, les secrétaires, les infirmières, ils en ont bénéficié. Tout le monde l'a eu, alors que c'est pas tout le monde qui y a participé financièrement. Et c'est comme ça que la formule REN est arrivée, c'est de dire « ben tu ne peux pas bénéficier de gains des syndicats sans payer ta cotisation. » Et c'est là-dessus que le ministre du Travail vient dire, ben moi, là, je vais faire une brèche là-dedans. À court terme, ça peut être une chose, mais sur du plus long terme, le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est affaiblir notre capacité d'intervenir sur des choses sur lesquelles on veut travailler, puis l'équité salariale, que ce soit les droits parentaux, que ce soit la CNSST. Et c'est sûr qu'on donne souvent les exemples du côté du gouvernement là, qui sont frappants, comme la contestation de la loi 21 sur la laïcité. Mais ça, là, c'est un élément. Mais au quotidien, on travaille sur des enjeux qui bénéficient. Puis moi, écoutez, à la CSQ, on représente plus de 80% de femmes. Les enjeux sur lesquels on travaille, ce sont les enjeux qui touchent les femmes, notamment droits parentaux, comme j'ai mentionné, qui c'est ça. Alors, c'est pour ça que je pense que si on gratte le projet de loi, on voit que le gouvernement cherche à affaiblir, justement, capacité d'intervention de beaucoup de groupes, dont les syndicats. Puis je pense que ce bout-là, c'est sûr que le gouvernement le dit pas trop fort. Il parle de transparence, etc. Mais je pense que cet élément-là, puis les Québécoises et les Québécois veulent un gouvernement qui puisse décider, mais veulent pas que le gouvernement puisse décider seul. Tout. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et c'est ce que font les syndicats. Je suis d'accord avec une chose. Il faut des fois mieux expliquer les choses de notre côté, mais on est capable de le faire sans se faire imposer des choses par le gouvernement.
Est-ce que ça risque d'être compliqué dans le futur, en fait? Parce que des fois, c'est aussi à l'interne même des syndicats qu'il y a de la grogne, qu'il y a des gens qui se sentent mal représentés. On ne met pas ça sur vos épaules, on ne met pas ça sur votre groupe syndical, mais plutôt une tendance qu'on voit parfois quand vient le temps de parler de manifestations ou de gens qui sont mécontents. Vous voyez ça comment, vous, de l'interne?
Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas faire en 2026 du syndicalisme comme on faisait il y a 20 ans ou 25 ans. D'ailleurs, l'ensemble des grandes organisations, là, les 9 organisations syndicales représentatives au Québec, sont présentement en train de faire des états généraux du syndicalisme pour repenser collectivement nos façons de faire. Après ça, à l'interne, ben oui, il faut être plus transparent. Oui, il faut mieux expliquer les choses. C'est notre travail. Mais en même temps, vous savez, on a 225 000 membres à la CSQ. Même si j'en ai 70 % qui sont d'accord avec les positions qu'on prend, puis il y en a 30 % qui sont contre, ben ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait quand même plus de près de 75 000 membres qui seraient susceptibles d'écrire sur les médias sociaux que nos décisions n'ont pas d'allure. Alors, il faut toujours faire attention à ça. On prend des décisions en instance. On est une démocratie représentative. Moi, quand je suis en conseil général, là, j'ai plus de 300 délégués qui représentent l'ensemble de nos syndicats, des 250 syndicats de la CSQ à travers le Québec. Puis là, on prend des décisions. Eux, ils vont voir leurs délégués qui sont dans les milieux. Puis là, après ça, on peut dire, ouais, mais là, c'est pas tout le monde qui participe. Ben oui, puis là, hein, il y a eu 40 quoi, combien de pourcents qui sont allés voter aux dernières élections et la CAQ a obtenu à peine 40%. Est-ce qu'on dit que c'est un gouvernement illégitime? Fait qu'il faut faire attention avec ça, mais je le répète, là, est-ce qu'on peut faire mieux comme syndicat? Bien sûr, puis ça, on est prêt à le faire. Et moi, je suis toujours prêt à discuter de qu'est-ce qu'on peut faire mieux, puis de prendre le temps de bien expliquer les décisions puis ce qu'on fait au quotidien.
J'aime vous entendre justement dire oui, on peut faire mieux du côté des syndicats. Puis est-ce que justement les projets de loi de M. Boulay émanent d'erreurs de centrales syndicales? Puis là, je parlerai peut-être pas seulement de la vôtre, mais je vais donner un exemple. La grève à la STM durant la fin de semaine où il n'y avait pas du tout de service offert à la population. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est la grève là, présentement au massif, le centre de ski qui est déclenché un jour après la fin de la convention collective, une grève illimitée. Est-ce que c'est justement ce type d'action-là très forte qui a amené le gouvernement à être très défensif dans ses projets de loi?
Ben, ou est-ce que c'est le gouvernement qui utilise des exceptions? Hein, parce que quand on sait qu'au Québec, plus de 95 % des conflits de travail se règlent sans grève. Donc, il reste un 5 % dont on parle beaucoup. Et est-ce que le gouvernement utilise ces exemples-là pour mener à terme son agenda pour mettre de côté les contre-pouvoirs
Je pense que les deux s'équivalent parce que, tu sais, les arrêts de travail que je parle, que ce soit la STM ou la RTC en plein festival d'été cet été, c'est quand même des actions syndicales concertées pour faire mal à la population qui sont fortes.
Oui. Bien, plus pas mal aux décideurs que la population, mais je suis d'accord que... Je préfère parler de mon organisation, vous comprendrez bien, mais quand la CSQ, on a décidé de faire la grève dans le secteur public, hein, puis on n'a pas fait une grève générale limitée, rappelez-vous, là, le Front commun avec mes collègues des autres organisations syndicales, on a fait une dizaine de journées, on n'a pas fait ça pendant un mois, puis on a dit, ben voici ce qu'on va faire, c'était ça notre stratégie, mais on sait que ça a dérangé, on fera pas semblant. Mais en même temps, c'est le seul moyen qu'on a quand il y a une fermeture. Je vais vous donner un exemple. Avant, ben, il y a plein de choses qui ont été faites dans nos écoles avant de faire la grève, des moyens de pression autres, comme par exemple, on a déjà vu dans nos écoles, on a dit, OK, voici, on va prolonger de 15 minutes l'heure de récréation. On va boycotter les devoirs. Puis, savez-vous que tous ces éléments-là, le tribunal administratif du travail nous dit que c'était illégal. Alors, présentement, là, dans le réseau scolaire, à part porter un T-shirt, un macaron ou faire la grève, il ne reste plus d'autres moyens. Alors, ben, qu'est-ce qui reste quand le gouvernement n'écoute pas puis qu'il dit, ben moi, j'ai plus d'argent puis je me croise les bras puis je négocie pas. Alors, maintenant, est-ce qu'on est capable de s'asseoir pour avoir un dialogue social au Québec qui tient le coup puis de mettre les gens au centre en disant, ben allez, là, discuter, nommer les problèmes, parce que souvent, on est d'accord avec les problèmes puis avec les solutions, un peu moins. Mais minimalement, on s'entend avec les problèmes, puis après ça, on travaille pour trouver des solutions. Moi, je suis prêt à le faire, puis je l'ai dit avec le ministre du Travail. Écoutez, là, s'il y a quelques problèmes avec le monde syndical, puis qu'on est capable de les nommer, puis de les pointer, on peut peut-être trouver des solutions. Mais le mur à mur, là, pour affaiblir notre capacité d'intervention, bien ça, on dépasse ça, puis on est davantage dans un agenda électoraliste. Un gouvernement là, qui cherche un peu, qui va aller chercher des appuis un peu à sa droite avec la montée des conservateurs. On n'est pas dupes, là. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Là. les gens qui pensent que c'est vraiment pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs qu'on passe ce projet de loi-là, là, ils croient pas ça.
Monsieur Gingras, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous faites partie du seul président syndical, puis j'hésite pas à vous le dire, avec qui c'est intéressant de discuter parce qu'on jase justement pour améliorer la société et non pas seulement là, de combat syndical. Puis je crois pas à ça, moi, par exemple, que la CAQ cherche des appuis, Pascal. Ça se peut pas, ça?
Merci beaucoup.
Hey, Éric Gingras, un plaisir, on se reparle.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup, Éric Gingras, président de la centrale syndicale du Québec. Honnêtement, je le dis, c'est la seule centrale syndicale, je pense, qui n'a pas fait de grève dans les deux dernières années.
Ouais.
Ben, ils ont fait la grève concertée, là, qui était. Mais ça, ce moyen de pression-là, de grève concertée dans les négociations, dans la fonction publique, m'a pas dérangé. Puis je t'explique pourquoi. Parce qu'il était annoncé d'avance, il était planifié. Il était prévu. C'était une action concertée, tous les syndicats ensemble. Puis ça faisait partie justement de la stratégie de négociation et ça l'amenait à des ententes à l'approche du temps des fêtes. Moi, ce qui me dérange, c'est des grèves illimitées qui s'en vont directement atteindre ou des grèves ciblées qui s'en vont directement atteindre le citoyen, notamment en transport en commun, comme on a vu avec la STM et le RTC cet
été. Ceux qui pourraient se ranger devant ces travailleurs-là, derrière ces travailleurs-là.
Exactement.
Des gens qui nous écrivent qu'il y a certains syndicats qui paient le prix des frasques de d'autres syndicats.
Ah, c'est clair. C'est clair que le monde syndical paie les phrases de Magali Picard à l'heure actuelle. Là. Puis là, je sais qu'Éric Gingras me dirait peut-être que c'est une anecdote, là, mais elle était quand même bête du bail pendant qu'on faisait une négociation de la fonction publique. Puis elle a quand même déclaré la guerre sociale. Là. Donc ça, c'est clair. Moi, la CSN, je trouve que c'est une organisation syndicale qui manque de sérieux parce que souvent, on va venir s'attaquer à la population. C'est eux notamment qui gèrent les syndicats dans les sociétés de transport. Donc ça, c'est clair. La FAE, avec la contestation de la loi 21 devant la Cour suprême où on dépense justement des cotisations syndicales pour ceci, alors que la très, 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 très grande majorité des enseignants sont pour la loi sur la laïcité. C'est des erreurs syndicales qui malheureusement viennent ternir le mouvement et font en sorte que dans la population, et je le comprends grandement parce que je fais partie de ces gens-là, on devient très virulent envers les centrales syndicales.
J'ai un peu plus de difficultés aussi avec des porte-paroles qui n'acceptent pas d'entrevue ou quoi que ce soit.
Ouais.
Bon, vous allez peut-être me traiter de biaisé là-dedans, mais je me dis, si le débat n'est pas ouvert, avec qui ils vont débattre?
En
Officiellement,
effet.
Nous, on n'est pas la contrepartie, on n'est pas la personne avec qui ils s'opposent. Fait que quand, des fois, dans certaines grèves, il y a refus d'entrevue ou quoi que ce soit, je me questionne beaucoup sur la chose.
Oui, non, tu as entièrement raison là-dessus.
Habituellement, ça démontre une bonne volonté de discuter ou autre. Fait quand on n'y va pas, me pose plus de questions.
Oui, exactement. Pascal, rapidement, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité pour la fin de l'après-midi?
Bonne nouvelle que je choisis pour commencer parce que c'est le début de la Coupe du monde de ski acrobatique du côté de Lac-Beauport. C'est à 20 minutes de chez nous, peu importe où vous habitez ou presque dans la grande région de Québec. Profitez-en, vous allez pouvoir voir des athlètes qui vont se rendre aux Olympiques, mais des athlètes aussi qui nous représentent à travers le monde dans cette discipline. Ma foi, haute en couleur. Alors, c'est au lac Beauport, donc au relais, pour la Coupe du monde de ski acrobatique. Sinon, le premier ministre Mark Carney fait partie de l'actualité. Il a affirmé que l'intégrité territoriale du Danemark, notamment le Groenland, doit être respectée. Alors, c'est certain que c'est une flèche directe à Donald Trump, le président américain. Conformément au droit international, c'est sa façon de soutenir ses propos. Alors, on doit respecter le droit international. Alors, on rejette les prétentions du président américain Donald Trump au Canada. On ne fait pas partie de cette façon de voir les choses et surtout, on met un nom ferme à cette envie de Donald Trump. Il était de passage à Paris, vous savez, on participe à un sommet sur l'avenir de l'Ukraine. Donc, il a endossé une déclaration sans équivoque que les leaders européens dans lesquels on accorde le soutien au Danemark face aux revendications territoriales du locataire de la Maison-Blanche, la manière dont on l'écrit dans la presse.
On a des nouveaux meilleurs amis au Canada, puis c'est les Européens.
Assurément qu'on essaie du moins qu'on soit capable de faire des affaires sociales et économiques avec eux.
Parce que souviens-toi, dès son élection, Mark Carney est embarqué dans un avion puis est allé rencontrer Emmanuel Macron. Il n'a pas lâché de coup de fil à Donald Trump. Il a dit « Je m'en vais là-bas ». Moi, pour moi, c'était très symbolique de dire « OK, c'est beau. Je sais que mon allié traditionnel n'est plus avec moi. Faut que j'aime faire des nouveaux amis puissants. » Puis on s'entend, là, l'Union européenne, c'est une puissance mondiale, là.
Donald Trump, pour parler de lui, parce que, bon, c'est un peu partout, mais différents axes, plaidait qu'il n'y avait pas eu de décès dans l'opération du kidnapping, de l'enlèvement de
Nicolas Maduro. Mais finalement, c'est pas vrai. Il y a eu des gens au Venezuela qui sont décédés.
En fait, ce qu'on sait, là, écoute, parole de l'un contre l'autre, mais pour le Venezuela, ce ne serait pas vrai. Delcy Rodriguez, celle qui a l'intérim actuellement comme présidente du Venezuela, a parlé d'une opération éclair qui a fait 55 morts au sein des forces vénézuéliennes et cubaines. Donc, ce serait un avis de décès de 23 militaires, 5 amiraux là-dedans, qui ont été rendus publics sur le compte Instagram de l'armée vénézuélienne. C'est un premier bilan qui semble officiel, fourni par les autorités à Caracas. Donc, procureur général du Venezuela, Tarek William Saabab, quant à lui, parle de dizaines de victimes parmi les civils aussi. Donc, des civils innocents et des militaires. Cuba, vous le savez, c'est un allié du Venezuela dans ce cas-ci. On a parlé de 32 membres du service de sécurité cubain qui avaient été tués. Et on a divulgué aussi leur identité dans la presse officielle. Alors, il va falloir suivre le tout. L'ONU a averti aujourd'hui que cette intervention-là, qui était présentée par les États-Unis, était présentée comme une opération de police, mais c'est vraiment sapé un principe fondamental du droit international. Et ça, on l'a répété dans ces mots-là aujourd'hui, comme qu'on n'est pas en appui du tout à la façon dont ça a été fait. Et surtout, on est très inquiet pour la suite des choses.
Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis Véraud et Max Larouche. Audrey sera de retour demain. Nous, Pascal, on est de retour en ondes demain matin, 6 h, parce que Marceau est toujours en vacances. On va être accompagné de Max Larouche. On va surtout qu'il mouche un peu moins, par exemple.
Ah oui, on souhaite se rétablir en quelques heures.
Exactement. Et par la suite, bien évidemment, vous le savez, de 10h à midi, c'est le point de Max. C'est de midi à 14h. C'est l'émission On en jase. On est très heureux de vous parler à chaque midi, que vous soyez à l'écoute. Merci beaucoup d'être là et on se reparle demain. Salut Pascal, bonne soirée.
Salut, à demain. On en jase.